Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans Sporama. Eric Manila qui est avec vous au micro. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débute samedi. De quoi réjouir les nombreux fans de football réputés pour leur ferveur. Dans cette édition de Sporama, nous revenons d'abord sur les rencontres amicales du week-end et de ce lundi. Nos consultants seront avec nous pour commenter et analyser les résultats, les enjeux et la qualité des équipes. Amine Berouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Élisée Onkpatine se trouve au Bénin. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Eric et bienvenue au Bénin.
Merci. Et avec nous également Jules Valentin Ngwe depuis Libreville au Gabon. Vous n'avez pas oublié votre sifflet. Hein. Bonsoir Jules.
Pas du tout. Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
J'attends votre sifflet tout à l'heure. Nous sommes également avec Amédine Sy qui se trouve à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Merci d'être avec nous. Parlons d'abord de la mort de Frank Beckenbauer, figure légendaire du football mondial pendant plus d'un demi-siècle comme joueur, entraîneur et dirigeant. Frank Beckenbauer est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, a annoncé ce lundi la fédération allemande, laissant l'Allemagne et la Bavière orphelines de leur Kaiser. Frank Beckenbauer était définitivement le plus grand footballeur allemand de tous les temps et par-dessus tout un homme formidable que j'ai appris à connaître, a déclaré dans un communiqué Hans-Joachim Watzke, vice-président de la Fédération allemande. Amine, que retenir du Kaiser?
Retenir que c'était l'élégance personnifiée. Élégant comme joueur, élégant comme, comme homme, élégant comme entraîneur. Franz Beckenbauer a donné ses lettres de noblesse au poste de libéraux. Il avait démarré sa carrière comme milieu récupérateur relayeur lors de la Coupe du Monde 66. Le monde avait pu découvrir ce joueur élégant qui contrastait un peu avec la rugosité ou la rigueur de l'équipe d'Allemagne de football, finaliste de cette Coupe du Monde. Depuis, il y a eu de nombreux flashs, de nombreuses images. La Coupe du Monde 70, le bras en écharpe lors de la demi-finale historique entre l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest, où blessé à la clavicule, il refusait de quitter ses compatriotes et camarades. La victoire de l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde 74, et puis après sa visite, ou plutôt son voyage aux États-Unis, où il a formé un tandem formidable au Cosmos New York avec le roi Pelé, puis son retour en Allemagne où il est devenu sélectionneur. Sélectionneur à succès puisqu'il a permis à l'Allemagne de remporter une Coupe du Monde en 1990.
C'était en Italie.
Que ce soit au Bayern de Munich ou encore en tant que président du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2006, qui a été un franc succès dans son pays. Il a bien mérité de la patrie, il a bien mérité du football. Et aujourd'hui, je pense que sur toute la planète, tous les connaisseurs, tous les amoureux du football qui vont se souvenir de la mémoire de Franz Beckenbauer et qui vont pleurer son décès.
Oui, Amine, il y a aussi Mario Zagallo qui nous a quittés, c'était vendredi, l'ancien sélectionneur du Brésil, qui était aussi joueur et qui a gagné la Coupe du Monde avec Pelé. C'est le seul, d'ailleurs, le seul qui a gagné 4 Coupes du Monde, n'est-ce pas?
4 Coupes du Monde, 58-61 en tant que joueur, joueur très intelligent dans le cadre du Brésil. C'était quelqu'un qui a porté de l'équilibre à cette équipe du Brésil. Puis sélectionneur en 70 avec une idée de génie, pouvoir rassembler 5 numéros 10 et les faire cohabiter. Hein. Gerson, Rivellino, Tostao, Pelé, Gervinho, l'équipe de la Dream Team du Brésil de 70. Il est revenu comme adjoint du sélectionneur Carlos Alberto Parreira. C'était lors du mondial disputé justement aux États-Unis où le Brésil avait renoué avec la tradition 24 ans après et ensuite était finaliste de la Coupe du Monde 98 en tant que seul patron à bord lors de la fameuse finale France-Brésil. On se souvient de la crise d'épilepsie de Ronaldo. Et aujourd'hui, le monde du football a été touché parce que ce sont les deux premiers, je parle de Franz Beckenbauer et auparavant de Zagallo, qui avait gagné la Coupe du Monde en tant que joueur puis en tant que sélectionneur. Le troisième en date, celui qui va rester, qui va perpétuer cette tradition, c'est le Français Didier Deschamps.
Jules?
Oui.
Oui, donc les deux monuments du football mondial qui nous ont quittés. Est-ce qu'au niveau au niveau du continent, est-ce que ce sont des joueurs qui ont marqué le continent africain? Dans quel sens?
Bien sûr, parce que ce sont des joueurs emblématiques d'abord. Et si je prends le cas de Zagallo, dans la tête de tous les Africains, et l'équipe de référence qui a en quelque sorte transformé le football africain en un football et si technique et si plaisant, c'est l'équipe qui a fait le doublé de 58-62. Et Zagallo était donc ailier gauche, un faux ailier. Et pour équilibrer un peu, freiner un peu la portée de l'équipe vers l'offensive à outrance. Et donc, ça lui a donné un certain sens tactique. Et c'est ce sens tactique qui a fait de lui le grand entraîneur qu'il a été, le grand sélectionneur. On l'a surnommé d'ailleurs le professeur. Et on l'appelait toujours à des moments où la situation était grave. Donc, c'était l'homme providentiel. Et Amine l'a dit tout à l'heure, réussir à faire jouer 5 numéro 10 dans une équipe comme il l'a fait en 70 et montrer par là même et par l'exemple sur le terrain lors de la finale et faire exploser le fameux Catenaccio, le ridiculiser même à la limite, mettre fin à cette épopée plus ou moins tragicomique. Et donc finalement, Zagallo a fait le travail et à tel point que même en 2002, on voulait le rappeler pour remplacer Scolari et qui avait accumulé beaucoup de défaites avant d'aller à la Coupe du Monde 2002. Heureusement qu'il va la gagner. Donc ça c'est vraiment quelqu'un qui au niveau de l'Afrique a été comme tous ceux de 58-62 a été pratiquement adopté. Pour Beckenbauer, tout le monde se souvient que le libéro moderne est tel qu'il l'a créé, élégant, a été imité sur le continent africain dès la Coupe des Nations de 1972. On avait par exemple des libéraux emblématiques comme Len Paul, comme Dengaki de Congolais, et plus tard dans la défense centrale de la RDC Zaïre de l'époque. Et on avait également des joueurs qui essayaient de copier un peu le jeu de Beckenbauer. Donc c'est un joueur qui a changé pratiquement la vision qu'on a sur les joueurs axiaux de la défense et a transformé ces joueurs en artistes. C'est vraiment deux grands personnages de l'histoire du football qui s'en vont.
Nous, Ahmedine.
Oui.
Oui. Mario Zagallo, Frank Beckenbauer, est-ce que ce sont des joueurs qui ont inspiré certaines légendes du continent qu'on connaît?
Oui.
Comme qui,
oui,
par exemple?
Déjà deux références. Oui. Deux références. Ils ont été de grands joueurs, d'abord. Ensuite, de grands techniciens. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Le 15, Ben Doyen l'ont dit tout à l'heure. Frank Beckenbauer, c'est la première incarnation du libéro libéré. Parce que tout simplement, c'est un libéro qui ne s'alignait jamais avec les autres défenseurs. Il était un fin technicien, intelligent et un meneur de jeu extraordinaire. Donc, on peut retenir de lui. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance de le voir jouer, mais il a été exceptionnel comme libéro. Ensuite, comme technicien, Zagallo, Jules l'a dit tout à l'heure, c'était le pompier de service du Brésil. Quand le Brésil avait des problèmes, on faisait appel à lui. Et quand il arrivait, le problème était réglé. Chapeau bas à ces deux anciens footballeurs et techniciens, Jules.
Élisée?
Oui, Eric, ce qu'il faut retenir simplement de ces deux joueurs, bon, on l'a presque tout dit, et il faut simplement dire que Franz Beckenbauer, le Kaiser, le César, l'empereur du football, c'est le plus grand libéro que le football a connu. Il a remporté le Ballon d'Or, il a remporté la Coupe du Monde, il a aussi entraîné l'Olympique de Marseille. Vous imaginez que c'est après son départ que l'OM remporte la seule étoile et la seule Ligue des Champions à la France. C'est vrai qu'après son départ, il y a le Belge qui est venu remporter le trophée. Donc il a
marqué de son empreinte hein, cette discipline, un grand libéro, un très bon joueur qui me rappelle, moi, parce que je ne l'ai pas vu jouer, mais il me rappelle Matthias Sammer, c'est un autre Allemand, Matthias Sammer, qui a aussi remporté le Ballon d'Or. Il a remporté la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund en 1996. La seule faute note, Matthias Sammer, lui, n'a jamais joué en équipe nationale. Donc, vous imaginez, c'est un très grand talent que le monde du football vient de perdre. Mario Zagallo, le grand technicien. Ça me plaît de dire que ce sont des gens qui maîtrisent véritablement le football brésilien. Parce que quand vous prenez un peu l'histoire, à chaque fois quand le Brésil se retrouve en difficulté, eh bien, le Brésil leur fait appel. Mais il y a Mario Zagallo, il y a Carlos Alberto Parreira. D'ailleurs, ce sont de vrais amis, deux vieux amis qui se comprennent. À chaque fois quand on appelle l'autre, l'autre fait appel à son second pour être son assistant. Bon, vous imaginez, ce sont deux messieurs, Alberto Parreira et Mario Zagallo, ce sont ces deux messieurs qui savent comment faire fonctionner le football brésilien. Donc, les résultats plaisent pour eux. Ils ont remporté tout simplement la plus grande compétition que le football connaît, c'est bien sûr la Coupe du Monde de football.
Merci Élisée. On va revenir sur le Brésil avant de finir cette émission. La Sporama continue dans un instant.
Là, du résultat qui est bon, ça valide la préparation physique parce qu'on avait demandé aux garçons de...
Voilà, parlons à présent de la CAN avant le match d'ouverture de samedi entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. L'ambiance monte peu à peu, différentes équipes livrent des matchs de préparation. Élisée, vous avez suivi pour nous les derbies du week-end de ce lundi, qui a joué contre qui et quels sont les résultats?
Bien évidemment, Eric, vous l'avez dit, l'ambiance monte hein, et c'est dans cette ambiance, comme on dit déjà, la CAN a démarré que la Côte d'Ivoire a littéralement balayé, a littéralement corrigé la Sierra Leone. Hein. C'était à San Pedro, le stade de Laurent Pokou, 5-1. Mais avant, il y a aussi l'Algérie qui est en train de revenir au premier plan. L'Algérie qui veut remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque l'objectif c'est bien cela. L'Algérie qui a battu l'équipe A' du Togo Sud. La marque de 4-2, le Burkina Faso qui perd contre l'Iran 2-1, et il y a aussi la Tunisie qui a été contrainte au nul hein, par la Mauritanie à domicile à Rades, 0-0. Le Maroc qui devait rencontrer la Gambie s'est finalement envolé pour la Côte d'Ivoire hier dimanche et va jouer finalement contre la Sierra Leone le jeudi prochain. L'Égypte a battu la Tanzanie 2-0 avec un très bon Mohamed Salah. Et hier, on a eu quand même cette très belle victoire de l'Égypte, hein, 2-0 contre la Tanzanie aujourd'hui. Très tôt, eh bien, la Guinée a fait forte sensation en battant le Nigeria 2-0. Et puis en cours actuellement, Eric, le Sénégal affronte le Niger du côté du Dakar. Et pour le moment, le score est de 0-0.
Merci Élisée pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous avez également recueilli la réaction de Kaba Douara après la victoire du Sili contre le Nigeria. Suivez son appréciation.
Là, du résultat qui est bon, ça valide la préparation physique parce qu'on avait demandé aux garçons de beaucoup travailler, de souffrir. Et ils ont beaucoup souffert, croyez-moi. Et voilà, donc au moins sur le plan physique, on a beaucoup travaillé. On a procédé à des changements et des joueurs ont donné des bonnes réponses. On parle de groupe à chaque fois et c'est le groupe qui a bien répondu aujourd'hui.
Jules, comment vous évaluez les forces en présence?
Mais il faut dire que ça, c'est d'abord une des coupes les plus relevées, peut-être même la plus relevée au niveau de la représentation. Tous les gros sont là, tous les gros sont présents. Ceux qui ont l'habitude d'animer la Coupe des Nations, c'est bien. Il y a certains qui sont sur le retour, et comme par exemple les équipes d'Afrique australe, à cause des progrès que connaît cette zone. Donc, en fait, lors du premier tour, où il s'agit juste d'éliminer, quelques équipes, puisqu'on récupère jusqu'à 4 des 6 troisièmes. Donc, finalement, la véritable compétition commencera avec les matchs à élimination directe. Mais les équipes se tiennent et je crois que ce qui va faire la différence, c'est d'abord la richesse du banc pour pouvoir avoir toutes les possibilités et de coacher, mais aussi l'acclimatation. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais le Sénégal, par exemple, qui gagne au Cameroun, a eu un complice de choix et que personne n'avait pu voir. Il a joué jusqu'en quart de finale dans l'espace tempéré des montagnes de l'ouest du Cameroun où la température est proche du printemps européen. Donc les joueurs sénégalais ont eu moins de problèmes d'acclimatation alors que tous les autres, Algériens, Marocains et tout cela, transpiraient fortement à Douala, à Yaoundé et à Garoua. De telle sorte que le Sénégal a gagné cette coupe comme un coureur de fond. Il a démarré doucement, il a gardé toutes ses forces et il a gagné. Donc l'acclimatation sera importante et dans ce sens, l'Égypte sera favorisée parce que la plupart des joueurs égyptiens jouent en Afrique. Et vous verrez d'ailleurs que sur les 7 trophées de l'Égypte, il a gagné 5 en Afrique subsaharienne. Donc c'est la seule équipe d'Afrique du Nord qui fait cela, parce que les joueurs égyptiens jouent en Afrique. Mais les autres ont un problème d'acclimatation avant de se mettre réellement au niveau. Mais c'est vraiment très intéressant, c'est ouvert. Pour moi, le favori serait l'Égypte et il y aurait une horde de prétendants sérieux.
Mmh. Élisée, de votre point de vue,
l'Égypte, c'est vrai, finaliste de la dernière édition, et le Sénégal font d'office des plus grands favoris. Maintenant, il y a le Maroc qui était demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde et qui se présente aussi comme un sérieux prétendant pour le titre. Jules a dit, si on prend l'Égypte, on remarque que plus de la moitié de son trophée a été remporté au sud du Sahara. Donc il faut faire très attention avec non seulement l'Égypte, mais surtout avec les équipes venues du Maghreb, les équipes de l'Afrique du Nord, j'allais dire, il y a l'Égypte, le Maroc et l'Algérie. C'est vrai, la Tunisie, bon, c'est une équipe qui n'est pas souvent... c'est vrai que depuis un certain moment, la Tunisie ne convainc plus. Sinon, avec ces trois sélections, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Maintenant, l'équipe qui déçoit depuis un bon moment, c'est bien sûr le Nigeria. Et le Nigeria qui connaît des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 très difficiles. Cette sélection a commencé difficilement cette éliminatoire avec deux nuls, déjà un à domicile et un à l'extérieur, et que cette sélection a dû se qualifier difficilement pour cette CAN qui aura lieu et qui va commencer samedi prochain. Et surtout, ce résultat, ce match perdu en amical contre la Guinée 2-0, c'est vrai que deux cons diront que c'est un match amical, mais franchement, ce Nigeria ne convainc pas malgré son armada offensif. Le Nigeria ne convainc pas, mais attention, la Côte d'Ivoire est à domicile, la Côte d'Ivoire va vouloir faire mieux que 1984. Donc, en tout cas, les éléphants montent en puissance depuis que le sélectionneur français est à la tête de l'équipe. Donc, attention, bien évidemment, à cette sélection ivoirienne.
Amine, est-ce que c'est une compétition qui est très ouverte?
Ben écoutez, c'est la CAN la plus ouverte des dernières années, puisqu'il y a une dizaine de prétendants. En tout cas, une bonne demi-douzaine de sélections qui se détachent du lot, mais il n'y a pas de grosse différence entre ces équipes. Hein. Que si on prend grosso modo les formations qui sont prétendantes au titre, il y a le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui a intérêt à ne pas récidiver ou ne pas répéter ce qu'elle avait fait en 84 lorsqu'il avait été éliminé chez elle il y a 40 ans, au premier tour. Il y a le Sénégal qui est tenant du titre. Et qui vendra très chèrement sa peau. On sait que Sadio Mané et Nko vont être très motivés dans la perspective de faire un back-to-back. Il y a la sélection égyptienne, qui a l'ADN de la CAN et qui a montré avec des moyens très limités qu'elle était très ouverte tactiquement. Si en plus de ça, elle dispose d'individualité, de la capacité de Mohamed Salah qui peut tirer le groupe à l'eau, ça peut faire très mal. Il y a le Maroc. Mais le Maroc n'est jamais à l'aise dans la peau du favori, il est plutôt à l'aise dans la peau de l'outsider, et le Maroc n'a jamais réussi en Afrique subsaharienne. L'Algérie, on ne va pas oublier, bien évidemment, des sélections qui sont un peu en retard en ce moment, mais qui pourraient être dangereuses parce que personne ne les prendra en compte. Cameroun, Ghana, Nigeria, ça fait une belle brochette de prétendants pour la CAN, sans oublier des Maliens qui sont souvent dans la peau de l'outsider et qui sont en général... soit quart de finaliste, soit demi-finaliste. Donc aujourd'hui, c'est une CAN très ouverte, c'est une CAN très équilibrée, c'est à l'équipe qui saura s'adapter aux conditions climatiques parce qu'elle a l'armada, il y a la possibilité de, avec les joueurs qui sont nés, qui ont grandi en Europe, de ne pas pouvoir s'acclimater. C'est l'équipe qui s'acclimate.